Voilà. Bonjour à tous. Je vous remercie chaleureusement pour votre présence, toujours nombreuse. Et merci aussi pour votre fidélité à ces rendez-vous devenus réguliers de notre association Les Amis du Saulnois et de son patrimoine. Aujourd'hui, c'est déjà la cinquième conférence ici à la salle Saint-Jean à Château-Salins. Et elle donnera donc lieu à la publication d'un cinquième cahier du Saulnois. Les trois premiers cahiers étaient consacrés à la présentation du Saulnois, dans sa généralité dans le cahier numéro 1, dans sa dimension naturelle dans le cahier numéro 2 et à travers l'histoire dans le numéro 3. Le quatrième, qui n'est publié que depuis quelques semaines, était plus spécialisé car entièrement consacré à Château-Salins, qui plus est seulement à la première partie de l'histoire de cette ville. Et cette histoire est un exemple édifiant de la lutte que se sont livrés les comtes de Bar et surtout les ducs de Lorraine et les évêques de Metz pour le contrôle de cette saline du Saulnois au cours du Moyen Âge. Aujourd'hui, je vous rassure, on ne parlera pas du tout de Château-Salins et très peu du Moyen Âge. Nous allons surtout parler des 17e, 18e et 19e siècles. Vous allez voir qu'à travers la vie de quelques personnages de notre Saulnois, nous allons vite nous retrouver à la cour des plus grands souverains de l'Europe à cette époque. Vous voyez là une carte du Saint-Empire romain germanique au début du XVIIe siècle, juste avant la guerre de Trente Ans en Lorraine. Et vous voyez, comme vous le savez certainement déjà, que notre région relevait alors de l'Empire et non du Royaume de France. Voici maintenant les armoiries du Saint-Empire au XVIIIe siècle, sur lesquels on distingue nettement, sur l'écu central, les armoiries de la Lorraine à côté de celles de la Toscane. Vous aurez l'explication de cette place de choix dans quelques instants. Et voici, pour achever de planter le décor de mon exposé, une carte de l'Europe à l'époque napoléonienne, avec la France, l'Autriche, la Pologne et la Russie. Les villes de Nancy, Florence, Vienne, Paris, Saint-Pétersbourg. Eh bien, ces trois photos m'ont permis, en trois coups de cuillère à peau, de bien cadrer l'essentiel de mon propos d'aujourd'hui, à la fois dans le temps et dans l'espace. Et le premier personnage dont je vais maintenant vous entretenir est Monsieur le comte Charles des Armoises, marquis d'Aulnois. C'est lui qui a fait construire ce magnifique château en 1726 sur des plans attribués à Boffrand, l'architecte du château de Lunéville pour le duc Léopold. Germain Boffrand était un élève de Jules Hardouin Mansart, l'architecte de Versailles pour Louis XIV. On s'accorde généralement pour dire que Lunéville est un petit Versailles lorrain. Eh bien, Aulnois étant un petit Lunéville, on peut, par transitivité, comme on dit en mathématiques, en déduire que nous avons un tout petit Versailles chez nous dans le Saulnois, c'est à Aulnois-sur-Seille. Je ne vais pas vous faire ici tout l'historique d'Aulnois, car je l'ai encore fait lors de la dernière visite du 8 mai, et ça fera un jour l'objet d'un cahier spécial. Sachez simplement que la famille d'Aulnois n'est apparue dans l'histoire qu'au début du XIVe siècle, et que son nom disparaît, par absence de descendance masculine, avant même la fin de ce XIVe siècle. Et dès 1425, par héritage et mariage, on retrouve la maison forte d'Aulnoy entre les mains de la famille d'Oriaucourt, laquelle est issue de l'ancienne chevalerie lorraine. Les Oriaucourt, très dévoués au service des seigneurs évêques de Metz, occupaient les fonctions de châtelain de Nomni et de maître d'hôtel à la cour épiscopale de Vic. Vic, qui était alors la capitale du temporel de l'évêché de Metz, les Oriaucourt vont, entre guillemets, régner sur Aulnoy pendant plus d'un siècle et demi. La grosse tour et tout le vieux château médiéval datent de cette époque. À la fin du XVIe siècle, le dernier seigneur d'Aulnoy issu de cette puissante famille d'Oriaucourt est Guillaume, lequel avait réussi à cumuler ses fonctions de maître d'hôtel de l'évêque, ou plus exactement du cardinal à cette époque, avec celle de chambellan du duc de Lorraine. Sa fille unique, par son mariage avec Nicolas des Armoises, apporta la seigneurie d'Aulnoy entre les mains de la fameuse famille des Armoises dont nous allons parler maintenant. Les Armoises sont originaires des Ardennes, où se trouvent aujourd'hui encore deux communes portant ce nom, les Petites et les Grandes Armoises, deux localités situées dans l'arrondissement de Vouziers, où, par le hasard des nominations, mon fils exerça récemment des fonctions quelque peu seigneuriales, mais tout à fait républicaines, celles-là, en qualité de sous-préfet de Vouziers. Ce qui m'a permis d'approfondir le sujet avec des associations d'histoire locale. Les armoiries des Armoises, qui sont figurées à Aulnoy, notamment sur un vitrail dans la chapelle castrale, eh bien ces armoiries sont les mêmes que celles de la commune des Grandes Armoises dans ce département des Ardennes. Dès le XIe siècle, une branche de cette famille fit souche dans le Barrois, toujours sur la rive gauche de la Meuse, et au XIVe siècle, plusieurs de ses membres furent élevés au rang de maréchal du Barrois par le duc Robert de Bar, dont je vous avais parlé en janvier dernier à propos de Château-Saint. Au XVe, le nom des Armoises est évoqué dans une bien étrange affaire. Après la mort de Jeanne d'Arc, brûlée vive à Rouen en 1431, une usurpatrice, se faisant passer pour la Pucelle d'Orléans, épousa un certain Robert, chevalier des Armoises, et alla jusqu'à se faire valoir auprès de l'évêque de Metz en son château de Vic. Mais ceci est une autre histoire. Revenons à la fin du XVIe siècle à Aulnoy avec le mariage d'Antoinette, fille unique de Guillaume d'Oriaucourt, mariage avec Nicolas des Armoises, lequel devint ainsi le premier seigneur d'Aulnoy issu de cette célèbre famille. Autant les Oriaucourt avaient été très dévoués au service des évêques, autant les Armoises seront de zélés serviteurs des ducs. Et en quelques générations, ils vont gravir tous les échelons de la noblesse lorraine. C'est ainsi que le successeur de Messire Nicolas, qui n'avait que le rang de chevalier, eh bien ce sera son fils, le baron François des Armoises, qui fut aussi nommé bailli et gouverneur de Nomni. Le fils de François des Armoises sera le baron Paul, qui fut nommé colonel de chevaux légers au service du duc Charles IV, et qui fut promu maréchal de Lorraine, et il se vit même octroyer le titre de comte héréditaire. Après avoir passé l'essentiel de sa vie à guerroyer dans l'armée impériale aux côtés des ducs Charles IV et Charles V, lors de la guerre de Trente Ans et des conflits qui suivirent en ce XVIIe siècle, il rentra à Aulnoy en 1681. Il faut savoir que la terrible guerre de Trente Ans ne commença en Lorraine qu'au début des années 1630, mais qu'elle perdura bien au-delà des traités officiels de Münster-Westphalie de 1648. Le comte Paul des Armoises procéda alors à de nombreux travaux de restauration au château, ainsi que l'atteste ce millésime 1681 sur la clé de voûte des anciennes cuisines du château. À noter que le nom des Armoises fut évoqué de nouveau à cette époque à propos d'une étrange et très célèbre affaire, celle du masque de fer. Louvois, alors ministre de la guerre, parlait de ce mystérieux prisonnier de Louis XIV comme étant peut-être un descendant d'une noble famille de Lorraine, un de ses cadets attachés à la fortune du duc Charles IV, l'ennemi juré de la France. Et parmi les familles en question, celle des Armoises était nommément citée comme étant une des plus probables aux yeux de Louvois. Si cette hypothèse avait été retenue par l'histoire, alors il se serait peut-être agi d'un petit-fils de Messire Nicolas, autrement dit un cousin de notre comte Paul des Armoises, seigneur d'Aulnoy. À la mort de ce dernier, le comte Paul, en 1693, son fils, le comte Charles, lui succéda. Et en 1726, il sera, comme nous le verrons par la suite, élevé au rang de marquis d'Aulnoy par le duc Léopold, lequel avait été élevé par l'empereur, son oncle, au rang d'altesse royale. Il faut savoir que le duc Léopold est né à Innsbruck, qu'il a été élevé à la cour impériale à Vienne, comme un véritable archiduc autrichien, en compagnie des enfants de l'empereur Léopold Ier, les futurs empereurs Joseph Ier et Charles VI, ses cousins. En effet, le père du duc Léopold, Charles V de Lorraine, avait épousé Éléonore d'Autriche, la sœur de l'empereur. Notre duc Léopold était donc le neveu de l'empereur et portait le même prénom que lui, car il en était aussi le filleul. À ce stade de mon exposé, il est intéressant de rappeler qu'avant d'être si proche de la famille impériale des Habsbourg, la maison de Lorraine avait été au moins tout aussi proche de la famille royale française peu de temps auparavant. Ainsi, au siècle précédent, le duc François Ier de Lorraine avait passé une partie de son enfance à la cour de France et portait le même prénom que son parrain, à savoir le roi François Ier. Et Charles III, son fils et successeur à la tête du duché, fut carrément élevé à la cour avec les princes et les princesses. D'ailleurs, il épousa Claude de France, une des filles du roi Henri II et de Catherine de Médicis. Ce faisant, comme vous le voyez sur ce tableau généalogique, il devint le beau-frère de quatre futurs rois de France, François II, Charles IX, Henri III, puis Henri IV. La proximité entre France et Lorraine n'était pas seulement une vue de l'esprit. Cet incroyable retournement des alliances de la famille de Lorraine, passant de la France à l'Empire, eh bien, ce retournement des alliances fut lourd de conséquences pour la Lorraine, dont l'annexion à la France fut différée de plus d'un siècle. J'aurai l'occasion d'y revenir lors d'une autre conférence qui sera consacrée à cette très intéressante, mais sombre période de notre histoire, celle du XVIIe siècle, notamment avec la guerre de 30 ans entre les deux grandes puissances rivales, le Royaume et l'Empire, et leurs alliés. J'aurai d'ailleurs à cette occasion l'occasion de vous parler aussi du rôle de Saint-Pierre Fourier en cette affaire. À noter que le duc François II, qui abdiqua en faveur de son fils Charles IV, l'ennemi juré de la France, avait épousé Christine de Salm, laquelle se retira avec ses enfants dans le château de sa baronnie de Viviers. Viviers était le siège d'un des plus beaux châteaux de toute la Lorraine au XVIIe siècle. C'était la résidence préférée des ducs de ce temps-là. Mais Charles IV ayant pris le parti des Habsbourg, le château sera rasé en 1642 sur ordre de Richelieu. La partie rouge que vous voyez sur le plan du château correspond aux écuries que vous pouvez voir donc sur cette photo suivante. Et quand on voit la taille des écuries, on imagine ce que devait être le château lui-même. Le successeur de Charles IV, son neveu Charles V, né à Vienne, fut un duc errant, sans état, qui ne put jamais rentrer dans Nancy, la capitale de son duché, occupée par la France. On le vit cependant en 1677 à la tête d'une armée impériale sur le haut de la côte de Delme. Et bien que le maréchal de Créqui, qui tenait la place d'Aulnoy, ait fait lâcher les eaux de l'étang de l'Indre, les troupes de Charles V réussirent toutefois à traverser la Seille au niveau de Nomni, en direction de Nancy. Mais les Français firent échouer cette audacieuse manœuvre et Charles V dut battre en retraite. Il est fort à parier que le comte Paul des Armoises était de la partie. En effet, notre seigneur d'Aulnoy, bailli et gouverneur de Nomni, connaissait le terrain comme personne. Par la suite, il suivit très probablement le duc Charles V dans son exil en Autriche. Ce n'est qu'en 1697, après le traité de Ryswick, mettant fin aux guerres de Louis XIV avec l'Empire et la Grande Alliance, que le jeune duc Léopold, fils de Charles V, recouvra enfin la souveraineté sur son duché de Lorraine. Le 17 août 1698, il entra pour la première fois dans sa capitale, Nancy. Le retour triomphal du duc Léopold en Lorraine coïncide avec le début de la fulgurante ascension au sein de la cour de Lorraine de Charles des Armoises, le fils unique du comte Paul. Et dans les jours qui suivirent, il fut successivement nommé chevalier d'honneur de Son Altesse Royale la Duchesse de Lorraine, bailli du marquisat de Nomni, conseiller chevalier d'honneur en la cour souveraine de Lorraine et, peu de temps après, conseiller privé et conseiller d'État. Précisons que la duchesse, autrement dit l'épouse du duc Léopold, n'était autre qu'Élisabeth Charlotte d'Orléans, la nièce du roi Louis XIV. Léopold était donc le neveu à la fois de l'empereur, Léopold Ier, par le sang, et du roi de France, par alliance. Mais son cœur penchait plus pour Vienne que pour Versailles. Les sentiments d'un côté et la nécessité diplomatique de l'autre. En 1702, suite à une nouvelle occupation française de Nancy, Léopold fut obligé de, entre guillemets, déménager à Lunéville, où il entreprit la construction de son nouveau château. L'année suivante, en 1703, le comte Charles fut nommé envoyé extraordinaire en mission à la cour impériale de Vienne. Il avait apparemment toute la confiance du duc Léopold pour ses affaires privées, car il avait déjà été démarché par lui à Versailles pour les négociations de ses fiançailles, avant d'être missionné maintenant auprès de la famille impériale. Quelques années plus tard, notre seigneur d'Aulnoy reçut le titre de grand écuyer, devenant ainsi un des grands officiers à la cour de Lunéville. Mais son titre le plus important fut certainement celui de gouverneur des princes de Lorraine. Son épouse devenant pour sa part gouvernante des princesses de Lorraine. Notre seigneur d'Aulnoy eut donc la responsabilité, partagé toutefois avec d'autres grands de la noblesse lorraine, responsabilité de l'éducation des fils de son Altesse royale, le duc Léopold. Et parmi ceux-ci, il y en a deux qui laisseront leur nom dans l'histoire. Tout d'abord, François-Étienne, dernier duc de la famille de Lorraine, qui régna d'abord sur le duché sous le nom de François III, avant de devenir grand-duc de Toscane sous le nom de François II et d'être élu plus tard empereur du Saint-Empire sous le nom de François Ier par suite de son mariage avec Marie-Thérèse d'Autriche, héritière du domaine des Habsbourg. François III de Lorraine, François II de Toscane et François Ier du Saint-Empire, c'est toujours du même homme qu'il s'agit, et nous allons le retrouver souvent au cours de cette conférence, car il est un personnage central de cette histoire. Le frère de François, le prince Charles-Alexandre de Lorraine, épousa la sœur de Marie-Thérèse. Les deux frères épousèrent donc les deux sœurs. Et il devint gouverneur général des Pays-Bas autrichiens après la mort de son épouse. À Bruxelles, son souvenir est toujours présent, ne serait-ce que par la présence de sa statue sur la grande place de la capitale européenne et aussi, comme vous le voyez ici, sur la place du musée. François, en épousant l'aînée des filles de l'empereur Charles VI, fonda la nouvelle dynastie des Habsbourg-Lorraine et, dans sa descendance directe, on trouve à chaque génération des noms connus de tous. Marie-Antoinette, sa fille, qui épousa Louis XVI, François II, son petit-fils, dernier empereur du Saint-Empire qui dut abdiquer sous la pression de Napoléon pour n'être plus qu'empereur d'Autriche sous le nom de François Ier. Attention à ne pas mélanger les François et leurs numéros. À la génération suivante, Marie-Louise, la fille du précédent, épousa Napoléon Ier. À la génération suivante, François-Joseph, le mari de Sissi, qui fit tellement pleurer dans les chaumières. Et d'autre part, il y a à la même génération, bien le duc de Reichstadt, le fils de Napoléon et de Marie-Louise. À la génération suivante, nous avons le prince Rodolphe, fils de François-Joseph et de Sissi, mort mystérieusement à Mayerling. Et nous avons aussi son cousin, l'archiduc héritier François-Ferdinand, qui sera assassiné à Sarajevo le 28 juin 1914, ce qui allait déclencher la Première Guerre mondiale. Puis nous arrivons à Charles Ier, dernier empereur d'Autriche qui dut abdiquer après 1918, et enfin le fils de ce dernier, Otto de Habsbourg, qui est mort l'an dernier, marié en 1951 en la chapelle des Cordeliers à Nancy, sous le nom de Otto Habsbourg-Lothringen. Il y est revenu en 2001 pour fêter son 50e anniversaire de mariage et il déclara: Je suis venu à Nancy parce que je suis lorrain. La boucle historique reliant Vienne à Nancy, l'Autriche à la Lorraine, cette boucle était ainsi bouclée. Après cette longue digression, revenons maintenant à Aulnoy en 1726. Le comte Charles, élevé par la grâce du duc Léopold au rang de marquis, fit édifier à Aulnoy un nouveau château plus en rapport avec son rang. L'intérieur de la vieille maison forte des Oriaucourt fut démoli pour laisser place à ce grand escalier d'honneur. Et comme à Lunéville, il fit aménager des jardins en terrasse et des bosquets. À la mort du marquis Charles des Armoises en 1728, il n'avait pas eu le temps de beaucoup profiter de son château. Selon son testament, le marquisat d'Aulnoy échut au dernier descendant mâle de la famille des Armoises, un lointain cousin, le comte Antoine Bernard des Armoises. Voilà encore un bien intéressant personnage. Il avait épousé la nièce du marquis de Beauvau, le vice-roi de Toscane. Pour bien saisir l'ambiance de cette époque en Lorraine, il faut savoir que monsieur le marquis de Beauvau était l'ami et même le favori du duc Léopold. Cependant que son épouse en était la maîtresse. Cela lui valut bien des faveurs. Il se vit notamment offrir le marquisat d'Arouet, où il fit bâtir le magnifique château que vous avez peut-être déjà visité. Chargé de négocier le mariage de François de Lorraine avec l'archiduchesse Marie-Thérèse, eh bien, il se vit confier l'administration de la Toscane par le futur empereur après le départ de celui-ci pour Vienne. Antoine Bernard des Armoises ne résida pas beaucoup au château d'Aulnoy. Il préférait sa résidence de Flavigny qu'il avait acquise par son mariage avec la nièce du marquis de Beauvau. Flavigny, entre Nancy, la capitale, et Lunéville, la cour de Lorraine. Mais restons encore un instant dans l'air du temps à Lunéville en ce 18e siècle, avec la célèbre marquise de Boufflers, qui fut la maîtresse à la fois de Stanislas, qui succéda au duché de Lorraine après le départ de François à Vienne, Elle fut la maîtresse à la fois de Stanislas et de son intendant, Chaumont de la Galésière, et de bien d'autres encore. Elle devint aussi l'amie de Madame du Châtelet, l'égérie de Voltaire, tout ce beau monde qui fréquentait la cour à Lunéville. Eh bien, la marquise de Boufflers en question était la fille du marquis de Beauvau-Craon, autrement dit, la cousine, par alliance, de notre dernier marquis d'Aulnoy. Antoine Bernard des Armoises cumula lui aussi les titres et les fonctions. Il fut successivement chambellan de son Altesse royale le duc François III, lieutenant des gardes du corps du grand-duc de Toscane, François II, puis haut général, feldmarschall, des armées de Sa Majesté l'Empereur, François Ier, commandant sa garde noble. Je vous rappelle qu'il s'agit toujours du même personnage qui fut tour à tour duc de Lorraine, grand-duc de Toscane, empereur du Saint-Empire, François. Vous voyez qu'en parlant des Armoises, en partant d'Aulnoy et en passant par Lunéville et la Toscane, on est bien vite arrivé à la cour impériale, à Vienne. Bien d'autres Lorrains suivirent François de Lorraine en Toscane, puis en Autriche. C'est notamment le cas de François-Joseph Toussaint, issu d'une famille de notables de Dieuze. Son père était avocat au Parlement de Metz et lui, François-Joseph Toussaint, entra très tôt au service du duc Léopold, qui lui confia de nombreuses missions diplomatiques, tant en France qu'en Angleterre, puis en Autriche, à Vienne, auprès du jeune prince François. Il sera d'ailleurs anobli par le duc François III, puis il devint son conseiller privé, le suivant en Toscane, puis à Vienne, où il devint l'un des plus importants des ministres de l'empereur François Ier. L'un de ses frères fut trésorier du grand-duc de Toscane, et un autre fut contrôleur de la saline de Dieuze. Un petit lot de consolation. Ami de Robert Schumann et européen convaincu lui-même, Jean de Pange, on sort un peu du saulnois, Jean de Pange affirmait que pour un Lorrain, parler de l'Autriche, c'est parler de sa seconde patrie. Je modérerai cette expression en disant que ceci est vrai quand on parle de la noblesse lorraine. C'est probablement pas la même perception quand on se met à la place des gens du peuple à cette époque. Je répète l'expression de Jean de Pange, pour un Lorrain, parler de l'Autriche, c'est parler de sa seconde patrie. En vérité, on a affaire à toute une véritable diaspora lorraine, car on retrouve des descendants lorrains, non seulement en Autriche, mais aussi en Toscane, aux Pays-Bas et un peu partout en Europe. Il faut distinguer la Lorraine en tant qu'entité géographique et en tant que maison de Lorraine, la famille ducale, car cette dernière, pourchassée par la France au temps de Louis XIII et de Louis XIV, dut quitter son duché. Et durant cet exil, eh bien, la flamme de la maison de Lorraine ne brûlait plus à Nancy, occupée par les Français, mais à Florence, à Vienne, à Bruxelles ou ailleurs. Ainsi, parmi les grandes familles de Lorraine ayant servi l'Empire, avant, pendant ou après l'exil de la famille ducale, on peut citer un peu en vrac plusieurs noms en rapport avec notre Saulnois. Par exemple, celui des Bayères de Bopart, une famille qui donna deux grands évêques de Metz. Famille des Bayères de Bopart, implantée à Châteaubréen, dont un membre mourut devant Budapest dans la lutte contre les Turcs en qualité de capitaine du duc Charles III en 1598. Autre exemple, les Forgets de Barst, dont le nom est attaché à Tincry dans la baronnie de Viviers. Eh bien, deux d'entre eux furent médecins personnels, l'un du duc Charles IV et l'autre d'Éléonore de Habsbourg, la fille de l'empereur, qui épousa Charles V. Vous voyez ici, sur la route menant de Tincry à Viviers, ce qu'on appelle la croix Forget, qui a été érigée par un certain François Forget de Barst, qui était le fils de Jean Forget de Barst, médecin particulier du duc Charles IV de Lorraine, l'ennemi juré de la France. Parmi tous ceux qui, comme le comte Paul des Armoises, seigneur d'Aulnoy, servirent dans l'armée impériale, on peut citer les noms de Hunolstein, seigneurie de Châteauvouet, Bucelot, seigneurie de Delme, Custine, seigneurie de Guermange et de Billancourt. Ils furent eux aussi des officiers lorrains au service de l'Empire. Et d'autres familles encore, comme les Grèches, seigneuries de Jaloncourt et de Crincourt, les Rousselot d'Édival, dans la seigneurie du Val de Vaxy, les Dubois de Riocourt, qu'on retrouvera plus tard à la seigneurie d'Aulnoy. Après cette énumération, et avant de passer au personnage suivant, revenons un instant sur un point essentiel de mon exposé, le départ de la famille de Lorraine à Vienne et l'arrivée du roi de Pologne à Lunéville. Il faut bien se rendre compte du fait que le contexte politique européen de cette époque, je parle ici des années 1720-1730, eh bien, ce contexte était extrêmement complexe, géopolitiquement parlant, comme on dirait de nos jours. De véritables bombes à retardement minaient la sortie de nombreux conflits entremêlés et latents. Tout d'abord, l'empereur Charles VI n'ayant pas d'héritier mâle, il lui fallait trouver, pour sa fille, Marie-Thérèse d'Autriche, un mari fiable, pour transmettre tout l'héritage des Habsbourg. Pour ce faire, il avait été convenu qu'elle épouserait le fils du duc Léopold, son petit cousin, lequel avait d'ailleurs été éduqué à la cour de Vienne. Je vous en ai longuement parlé tout à l'heure. Mais la France, qui lorgnait sur la Lorraine depuis si longtemps, ne pouvait accepter que ce puissant duché intègre ainsi l'empire des Habsbourg. Ceci lui apparaissait comme un véritable casus belli, presque une déclaration de guerre. D'autre part, la guerre de succession de Pologne perdurait, et le sort du roi détrôné Stanislas Leszinski n'était toujours pas réglé. Stanislas Leszinski, dont la fille épousa le roi de France, pas moins que cela. Par ailleurs, Jean-Gaston de Médicis, qui régnait sur le grand-duché de Toscane, était sur le point de mourir sans aucune descendance. À noter que le dernier des Médicis en question comptait parmi ses ancêtres une certaine Christine de Lorraine, fille aînée de Charles III et de Claude de France, laquelle était elle-même la fille du roi Henri II et de Catherine de Médicis. En France, et ça n'est pas le moins, les Bourbons craignaient, en cas de mort prématurée de Louis XV sans descendance, que la couronne ne tombe entre les mains des Orléans. En effet, à 14 ans, Le jeune roi avait déjà failli mourir plusieurs fois. Sa promise, sa fiancée, l'infante d'Espagne, elle n'avait que 6 ans. Attendre était impossible. On décida donc, dans l'urgence, de marier le jeune Louis XV au plus vite. Et après d'incroyables intrigues, c'est finalement Marie Leszinska, la fille du roi déchu de Pologne, qui fut choisie. Cette jeune princesse, âgée de 21 ans, avait surtout le grand avantage de pouvoir donner rapidement un héritier aux Bourbons. Le mariage fut donc célébré sans tarder, par procuration, dès le 15 août 1725, par le cardinal de Rohan en la cathédrale de Strasbourg. Aussitôt, la nouvelle reine et sa royale escorte prirent la route de France. Puis, après une étape mémorable au château de Vic, emprunta le fameux tronçon appelé depuis lors le chemin de la reine entre Chambrai et Fresnes-en-Saulnois, en direction de Metz, puis de Versailles, où elle rejoignit son royal époux. Et à peine une dizaine d'années plus tard, ce sont les laborieux accords de Vienne qui devaient finalement démêler tout ce sac de nœuds et résoudre un peu tout à la fois. Ces accords de Vienne qui s'étalèrent sur 4 années, de 1735 à 1739. Ce fut très laborieux. En 1736, Marie-Thérèse d'Autriche épousa François de Lorraine, ce qui permit de perpétuer la dynastie des Habsbourg à travers les Habsbourg-Lorraine. En 1737, à la mort de Gaston de Médicis, François III de Lorraine devint grand-duc de Toscane sous le nom de François II, en attendant d'être plus tard élu empereur du Saint-Empire sous le nom de François Ier. Cette même année 1737, Stanislas renonça à toute prétention au trône de Pologne et reçut en échange le duché de Lorraine, en vie âgée, ce qui satisfaisait pleinement le roi de France, Louis XV, son gendre, qui devait, à terme, récupérer la mise. À noter qu'on trouve la signature de François-Joseph Toussaint, celui qui était né à Dieuze et dont je vous ai déjà parlé. On trouve sa signature à côté de celle de François de Lorraine sur un acte établi à Vienne à cette époque. Ce furent des accords que l'on pourrait qualifier de gagnant-gagnant, quasiment pour tous les protagonistes. L'empereur, qui pouvait transmettre le domaine des Habsbourg, le roi de France, qui devait bientôt récupérer la Lorraine, les deux rois de Pologne, car l'un se trouvait enfin reconnu comme souverain unique et légitime, et l'autre qui retrouvait un duché en rapport avec son statut de beau-père du roi de France. Le grand gagnant était notre duc François, qui hérita du grand-duché de Toscane. Il ne perdait pas au change par rapport au duché de Lorraine. Et puis il allait en plus devenir empereur. Mais à bien y regarder, c'est la Lorraine qui a fait les frais de cette négociation, car elle y a définitivement perdu son indépendance. Là aussi, il ne faut pas confondre la géographie de la Lorraine et la famille de Lorraine. En ce qui concerne le mariage du jeune Louis XV avec la fille du roi détrôné de Pologne, il faut souligner le rôle déterminant d'un certain chevalier de Vauchoux, qui a été le véritable artisan, le véritable entremetteur aboutissant à ce surprenant mariage d'un roi de France avec une humble princesse de Pologne. Le chevalier Noirot de Vauchoux était si proche du roi Stanislas que celui-ci assista en personne à son mariage à Dieuze avec Madame de Craftel, veuve du capitaine gouverneur de la Saline. Le nom de Craftel correspond de nos jours à une simple ferme près de je lus court. Les nouveaux époux firent bâtir en 1745 un nouveau château à l'emplacement du vieux château médiéval, là où se trouve aujourd'hui l'hôtel de ville de Dieuze. Et c'est dans ce château que naîtra le fameux Charles-Louis de Ficquelmont, futur premier ministre de l'Empire austro-hongrois en 1848, dont je vais vous parler tout à l'heure. Monsieur de Vauchoux, écuyer de quartier de la reine et par ailleurs grand officier de la couronne du roi de Pologne, était un ami très intime du roi Stanislas, qui lui avait accordé le titre de gouverneur de Dieuze. Stanislas lui était très reconnaissant d'avoir réussi à marier sa fille avec un roi de France. Toujours est-il que les deux, Stanislas et Monsieur de Vauchoux, moururent la même année, en 1766. Je vais maintenant vous parler du baron Nicolas Charles de Vincent, qui eut un destin tout à fait exceptionnel avant de se retirer sur sa terre de Billancourt, où se trouve sa tombe à l'arrière de l'église. Il suffit de lire ses titres pour se convaincre de son exceptionnelle destinée. Baron du Saint-Empire, Grand Croix de l'Ordre de Saint-Étienne de Hongrie, Commandeur de l'Ordre de Marie-Thérèse, Conseiller intime, Chambellan au service de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Général de cavalerie de ses armées et son ambassadeur près la Cour de France. Excusez du peu. Nicolas Charles de Vincent est né à Florence en 1757. Son père était un gentilhomme lorrain qui avait suivi le duc François en Toscane. Il servait alors dans la garde lorraine, devenue par la suite la garde du grand-duc, celle qui fut notamment commandée par le comte Antoine Bernard des Armoises, dernier marquis d'Aulnois, dont nous avons parlé précédemment. La mère de Nicolas Charles de Vincent était la fille de Nicolas Richard de Chénois, seigneur de Lès. On est là dans le canton de Delme. Et ce Nicolas Richard de Chénois était devenu commissaire général du grand-duc François II de Toscane. Nicolas Charles passa sa petite enfance à Florence avant de rentrer à Nancy, où son père se retira après la mort de son épouse avec le titre de baron du Saint-Empire. Après son enfance en Toscane et sa jeunesse en Lorraine, Nicolas Charles de Vincent s'engagea à 16 ans dans un régiment de l'armée impériale en qualité de sous-lieutenant. Ce régiment était basé dans les Pays-Bas autrichiens et c'est ainsi qu'il épousa, en 1780, la nièce de la grande maîtresse de la maison de l'archiduchesse, la gouvernante des Pays-Bas autrichiens, l'épouse de Charles-Alexandre de Lorraine, dont nous avons parlé auparavant. En 1788, il rentre en Lorraine et, avec l'héritage de sa riche épouse, il rachète la terre de Billancourt, où il entame une vie de paisible gentleman farmer, un propriétaire terrien. Mais arrive 1789, et notre baron prend part aux assemblées de la noblesse à Nancy, puis aux élections pour le bailliage de Château-Saint. Mais étant d'un esprit plutôt conservateur et déçu par les excès des troubles de cette période, il finit par réintégrer son régiment dans les Pays-Bas autrichiens. Il fut alors inscrit sur la liste des émigrés, ses biens furent séquestrés, sa femme se trouva, comme on dirait aujourd'hui, en liberté surveillée, à Billancourt. Elle mourra d'ailleurs dans ce domaine sans jamais avoir revu son époux. Et quand en 1792 la France révolutionnaire déclara la guerre à l'Autriche, notre baron se retrouva en première ligne à la tête de ses troupes en Wallonie, au service de l'empereur François II, le petit-fils de François de Lorraine. Quelques années plus tard, l'empereur vint en Flandre, le choisit comme nouvel aide-de-camp. Et ce fut alors pour lui le début d'une véritable ascension dans sa carrière, un grand coup d'accélérateur dans sa promotion. Puis, alors qu'il combattait les armées du Directoire en Italie du Nord, l'empereur lui confia les pleins pouvoirs pour traiter directement avec le général Bonaparte et signer les préliminaires de la paix de Campo Formio. Devenu par la suite général-major et chambellan de l'empereur, il assista, en cette qualité, en 1805, à Milan, au couronnement de Napoléon Ier, roi d'Italie. Et la même année, après Austerlitz, toujours sur le front en Italie, il signa au nom de l'empereur l'armistice avec le maréchal Masséna. Il eut aussi affaire à cette période-là avec le général Molitor, en qui il reconnaissait, disait-il, les qualités d'un vrai Lorrain comme lui, bien qu'étant dans le camp opposé. À noter au passage que le fils du général Molitor, né à Hayange, eh bien le fils du général Molitor devint par mariage propriétaire du château de Burtécourt, qui est actuellement la propriété de la communauté de communes du Saulnois. Après la paix de 1805, le général baron de Vincent fit fonction d'ambassadeur d'Autriche à Paris jusqu'à l'arrivée du prince de Metternich à ce poste prestigieux en ce temps-là. Nicolas Charles de Vincent fréquenta Talleyrand, ministre des Relations extérieures, et fréquenta Napoléon lui-même, dont il avait conquis l'estime. Il rentra ensuite à Billancourt pour cultiver son jardin et entreprendre la construction d'un nouveau château. Mais en 1808, le voici précipitamment rappelé à son devoir et envoyé à la fameuse entrevue d'Erfurt entre Napoléon Ier et le tsar Alexandre Ier pour représenter l'empereur François. Sur ce tableau, on voit notre baron au premier plan, devant tout un aréopage de princes, de rois et d'empereurs, en train de remettre à Napoléon la lettre que lui avait confiée l'empereur d'Autriche. On distingue notamment de gauche à droite le grand-duc de Bade, le baron de Vincent, le prince de Talleyrand, qui fut ministre des Relations extérieures de Napoléon, le marquis de Caulaincourt, alors ambassadeur de France à Saint-Pétersbourg et futur ministre des Relations extérieures, Napoléon Ier, les rois de Westphalie et de Saxe, le tsar Alexandre Ier, les rois de Wurtemberg et de Bavière. L'année suivante, après la paix de Schönbrunn, Napoléon exigea le retour des officiers lorrains en France. Et ayant su apprécier les qualités militaires et diplomatiques du baron de Vincent, Napoléon tenta à plusieurs reprises de l'attirer à son service. Mais alors que nombre d'anciens émigrés en profitèrent pour rentrer au pays, lui, par fidélité à la maison de Habsbourg-Lorraine, refusa. Commença alors pour lui ce que l'on appellerait aujourd'hui Une traversée du désert. Mais en janvier 1814, alors que l'empire napoléonien entamait sa lente agonie, le baron de Vincent fut nommé gouverneur des Pays-Bas libérés, avant d'être nommé quelques mois plus tard au poste tout à fait essentiel en ce temps-là, d'ambassadeur d'Autriche à Paris auprès du roi Louis XVIII, un poste qui avait été occupé auparavant par M. de Metternich. Il assista en 1815 au retour de Napoléon, les 100 jours, et accompagna le roi dans son exil. Nommé commissaire des Alliés aux côtés du général Wellington, il participa à la bataille de Waterloo, au cours de laquelle il eut un pouce arraché. On voit d'ailleurs sa main bandée sur ce portrait. Puis il reprit son poste d'ambassadeur à Paris, fonction qu'il occupa durant plus de 10 ans. En 1825, il assista au sacre de Charles X à Reims, le successeur de Louis XVIII, puis, peu de temps après, il quitta la capitale et se retira humblement à Billancourt, où vivaient ses deux filles, son fils résidant pour sa part non loin de là, au château de Lès. Dernier acte officiel et hautement symbolique pour lui, il organisa et présida, en qualité de commissaire de l'empereur, les cérémonies dites d'expiation, la translation solennelle des restes de la famille de Lorraine, les tombes ayant été profanées à la Révolution. Translation des restes de la famille de Lorraine en la chapelle des Cordeliers, la nécropole des ducs de Lorraine. Cérémonie qu'on appelle parfois aussi de purification. Il partagea ensuite le reste de sa vie entre son hôtel particulier de Nancy et surtout son domaine de Billancourt. Vous voyez là le château qu'il y avait fait construire. Château qui fut détruit au moment de l'offensive française du mois d'août 1914. Il y a une bonne vingtaine d'années, j'avais retrouvé sur le site une pierre gravée, aujourd'hui disparue, sur laquelle figuraient deux dates, 1270 et 1834. La première correspondait vraisemblablement à l'érection du premier château de la famille de Billancourt, et la deuxième à la fin des travaux du nouveau château du baron de Vincent. Nicolas Charles n'eut pas le loisir d'en profiter, car il mourut à la fin de cette même année 1834. Il est mort français, mais bien malgré lui. En vérité, il s'est toujours senti lorrain, car en servant l'Autriche toute sa vie, il est resté fidèle à la maison de Lorraine. Il se sentait chez lui aussi bien à Vienne qu'à Nancy, et plus encore sur sa terre de Billancourt. Avant de passer au personnage suivant, revenons un instant sur cette terre de Billancourt. À l'origine, cette seigneurie appartenait à une vieille famille de l'ancienne chevalerie lorraine, la famille de Billancourt, avant de passer par mariage à la famille de Guermanges, puis toujours par mariage à la famille de Custines. À la fin du XVIIIe siècle, le propriétaire était un certain Jean-Baptiste Nicolas Catoire, avocat du roi au bureau des finances de Metz. Ce Jean-Baptiste Nicolas Catoire mourut en 1787 et c'est l'année suivante, en 1788, comme nous l'avons vu précédemment, que le baron de Vincent racheta la terre de Billancourt. Quelques mots à propos de ce Jean-Baptiste Nicolas Catoire, ou plutôt de ses descendants, qui se feront dorénavant appeler Catoire de Billancourt. Le fils de Jean-Baptiste Nicolas devint directeur de la saline de Moyenvic et administrateur général des Salines de l'Est. Et le fils de celui-ci, né en 1789, date de la Révolution française, à Moyavik, eh bien, il émigra en Russie, où il mourut en 1834, exactement la même année que le baron Nicolas Charles de Vincent. Les Quatuors de Billancourt firent souche en Russie. On retrouve des noms Ivanovitch, Andreïevitch. Et ils vont devenir des notables, de très grands chefs d'entreprise à Moscou et s'illustrer dans le commerce, les affaires, les banques, l'immobilier et la politique. Ironie de l'histoire, le fondateur de cette branche russe était né en 1789, Révolution française. Eh bien, un de ses illustres descendants, du nom de Léon Lvovitch Quatuor de Billancourt, rentra en France en 1917. La Révolution russe, un chassé-croisé, un prêté-point rendu, le fameux monde de la finance, la fuite des capitaux, ne date pas d'aujourd'hui. Nous sommes juste dans la période des élections présidentielles. Je vais maintenant vous parler d'un certain Charles-Louis de Ficquelmont, né au château de Dieuze, en 1777, soit 20 ans exactement après le baron de Vincent. Ce descendant d'une des plus anciennes et illustres familles de la noblesse lorraine allait faire lui aussi une brillante carrière militaire et diplomatique, avant de devenir un des personnages les plus importants de l'Empire austro-hongrois. Au moment de la tourmente révolutionnaire, sa famille se trouva inscrite sur la liste des émigrés. Il s'engagea alors tout jeune dans l'armée des princes, une armée de contre-révolutionnaires, avant de passer carrément au service de l'Autriche. Il s'illustra d'abord en combattant les forces napoléoniennes en Espagne. Sa carrière militaire fut remarquable, général de division, maréchal de camp, général de cavalerie. Mais c'est sur le plan diplomatique puis politique que sa carrière est encore plus exceptionnelle. Il fut nommé par Metternich, dont il deviendra l'éminence grise, ambassadeur à Saint-Pétersbourg auprès du tsar. Le comte Charles-Louis de Ficquelmont épousa la petite fille du prince Kutuzov, le vainqueur de la grande armée de Napoléon Ier. Il fut nommé ministre d'État, puis ministre des Affaires étrangères, puis ministre-président et enfin chancelier de l'Empire austro-hongrois, succédant ainsi à Metternich. Il était né dans le modeste château de Dieuze, une des principales résidences des Ficquelmont, avec dans le Saulnois, on peut citer le château de Parois. Né dans le modeste château de Dieuze, mais il vécut dans ses palais à Saint-Pétersbourg et à Vienne et mourut plus tard dans le palais de Ficquelmont à Venise. Nous allons terminer par Monsieur le baron Antoine Stanislas Jankowitz. C'est lui qui fit bâtir, vers la fin de sa vie, cette étrange chapelle, ronde, néoclassique, à toit en coupole de style byzantin, à l'emplacement du vieux château médiéval de Marimont. Je parle là de Marimont la Petite, c'est-à-dire Marimont les Bourdonnais, une petite baronnie qui dépendit jadis des comtes de Réchicourt jusqu'à la Révolution. De son vrai nom, Antoine Stanislas Jankowitz de Jedrzenice. On se doute bien qu'avec un nom pareil, il n'était pas lorrain d'origine. En fait, son père, Joseph Jankowitz, d'origine hongroise, avait dû s'exiler en Pologne et était entré au service du duc Ossolinski, le grand trésorier de la couronne du roi de Pologne. Stanislas Leszinski. Et quand Stanislas devint duc de Lorraine et de Bar, eh bien Joseph Jankowitz suivit à Lunéville le duc Ossolinski, devenu maintenant le grand chambellan du roi Stanislas. En fait, il ne le suivit pas, il le précéda à Lunéville. Et à la mort du duc Ossolinski en question, eh bien, Joseph Jankowitz devint le contrôleur général de la maison du roi Stanislas. Il était si proche du roi Stanislas que celui-ci en personne tiendra le fils de Joseph sur les fonts baptismaux, lequel sera donc prénommé Antoine Stanislas, comme son parrain, le roi de Pologne, duc de Lorraine. L'avenir semblait plus que prometteur pour Antoine Stanislas Jankowitz, mais la révolution allait, hélas pour lui, compromettre les rêves de notre jeune aristocrate. Et en fait, c'est sans tambour ni trompette qu'il épousa en 1792 Marie-Lucie, la fille unique de Madame Falconet, et il se retira alors en toute discrétion sur la terre de Marimont acquise l'année précédente par sa belle-mère. Alors, quelques mots tout d'abord sur cette femme, Marie-Anne Falconet, de son nom de jeune fille, Marie-Anne Collot, qui avait eu, elle aussi, un destin extraordinaire, non en politique, mais dans le domaine des arts. Elle était la meilleure élève d'Étienne Maurice Falconet, le grand maître de la sculpture classique française au XVIIIe siècle. Elle le suivit donc tout naturellement à Saint-Pétersbourg en 1766, quand l'impératrice de Russie, Catherine II, lui demanda, sur les conseils de Diderot, de réaliser la fameuse statue équestre de Pierre le Grand, le fondateur de la ville de Saint-Pétersbourg. Cette statue fut inaugurée par la grande Catherine en personne. Étienne Maurice Falconet avait mis 12 ans pour achever son œuvre, mais le visage du fameux cavalier de bronze, ainsi que le nomme Alexandre Pouchkine dans son célèbre poème lyrique, eh bien, le visage du cavalier de bronze, c'est son élève Marie-Anne Collot, alors âgée d'à peine 18 ans, qui réussit à le modeler en une seule nuit dès la première année en 1766. Ce chef-d'œuvre lui valut aussitôt une grande renommée auprès de toute la noblesse russe. Elle devint l'artiste préférée, la portraitiste attitrée de l'impératrice. À 18 ans, elle fut élue à l'Académie impériale des Beaux-Arts. La jeune femme disposa ainsi d'une confortable pension qui lui permit plus tard, rentrée en France, eh bien, de racheter la terre de Marimont en 1791. Elle la racheta à monsieur le duc de Richelieu, seigneur de Richicourt, lequel était alors inscrit sur la liste des émigrés ennemis de la Révolution. Marie-Anne Collot admirait son maître, Étienne Maurice Falconet, mais c'est son fils qu'elle épousa, sans grand bonheur toutefois, si ce n'est d'avoir un enfant de lui, Marie-Lucie, celle qui épousa notre Antoine Stanislas Jankowitz. Dans la chapelle reposent 4 membres de la famille Jankowitz-Falconet. Marie-Anne Falconet, née Marie-Anne Collot, je viens de vous en parler, sa fille Marie-Lucie, qui épousa Antoine Stanislas Jankowitz, dont je vais encore vous parler, le baron Antoine Stanislas lui-même, et Antoine Anselme Jankowitz, leur fils. Cette sépulture fut violée au cours de la dernière guerre par des militaires allemands. Le style de cette chapelle n'est pas sans rappeler la petite chapelle qui se trouve dans le cimetière actuel de Bourdonnais et dont je vais vous reparler. Revenons donc à Antoine Stanislas Jankowicz, qui fit une brillante carrière politique. Il fut nommé préfet intérimaire de la Meurthe suite à son intervention auprès du tsar Alexandre Ier en 1814, et dans la foulée, il fut élu député. Il faut se rappeler que le tsar, dont les troupes occupaient alors notre pays, était le petit-fils de Catherine II, et les noms de Falconet, Collo, eh bien, étaient encore bien ressentis à la cour de Russie. L'intervention d'Antoine Stanislas Jankowicz avait pour but d'alléger la contribution de guerre due par le département de la Meurthe aux troupes alliées. Il fut plusieurs fois élu député de l'arrondissement de Château-Salins. Il sera élevé au rang de baron à l'époque du roi Louis XVIII et par la suite, avec une étiquette de droite, il soutint jusqu'au bout le gouvernement de Charles X. Il quitta la vie publique en 1830, battu aux élections par un certain baron Louis du centre-gauche, lequel avait lui-même été battu quelque temps auparavant par un certain monsieur Dubois de Riaucourt, dont nous avons parlé à propos d'Aulnoy. Cette année 1830 était vraiment une année noire pour notre baron, car il venait non seulement de perdre les élections, mais il avait perdu un peu de temps auparavant son fils unique, Antoine Anselme, dans un accident de chasse sur les terres du domaine, en bordure de la forêt de Mézières. Le père, éploré, se rendit alors en Hongrie, terre d'origine de ses ancêtres, pour adopter un descendant de la famille des Jankowicz, afin de pouvoir perpétuer le nom de la famille et surtout transmettre l'héritage du domaine de Marimont, un héritage tout à fait conséquent. Le baron Antoine Stanislas Jankowicz représentait une des toutes premières fortunes du département. Puis, il fit construire la fameuse chapelle funéraire pour abriter la dépouille de son fils, qui avait été donc initialement inhumé au cimetière de Bourdonnais. Et l'année même du transfert des restes d'Antoine Anselme, notre baron le rejoignit dans la tombe en 1847, ou plus exactement dans la crypte mortuaire de la chapelle. Le caveau familial du cimetière fut ensuite occupé par la dépouille de Vincent Jankowicz, le fils héritier adoptif, qui était né donc en Hongrie. À noter que la mère du baron, morte en 1799 à Marimont, fut inhumée dans la chapelle du château de Romécourt à Azoudange, château qui appartenait à la famille de Martin Pré, une famille proche des Jankowicz. Ce château de Romécourt avait été érigé au XVIe siècle par un certain Michel l'Enfant, sur la terre que le cardinal de Lorraine lui avait octroyée et érigé en fief pour lui. Le cardinal de Lorraine en question était Charles de Guise, le frère du duc François de Guise, et le frère de Marie de Lorraine qui, elle, avait épousé le roi d'Écosse. Ceci explique pourquoi Michel l'Enfant, seigneur de Romécourt, officier des Salines de Dieuze, était par ailleurs secrétaire de la reine d'Écosse, à savoir Marie Stuart, la fille de Marie de Lorraine. Il est trop tard aujourd'hui pour parler de Marie Stuart et de sa vie exceptionnellement romanesque, mais sachez que la reine actuelle, Élisabeth d'Angleterre, qui va fêter son jubilé, eh bien, elle descend de Marie Stuart, donc de Marie de Lorraine. Pour en terminer, je reviens à Bourdonnais, qui doit au Jankowitz la fondation d'une école maternelle, une salle d'asile, comme on disait jadis. Et sur le fronton du bâtiment en question, on peut lire cette maxime qui me servira de conclusion. Faites bien, laissez dire. Personnellement, vous connaissez mon petit côté taquin et rebelle. Je dis parfois, au lieu de faites bien, laissez dire, bien faire et laisser braire. Mais ce n'est peut-être pas sous cette forme-là qu'il faut la retenir. Voilà. C'était un peu compliqué, c'est pourquoi je pense que la publication du cahier, avec notamment les tables généalogiques, les cartes, permettra de bien comprendre l'essentiel de toute cette fresque historique européenne que je vous ai brossée en parlant de quelques personnages de chez nous. Petit seigneur du Saulnois au service des plus grands de l'Europe.